Alors ce matin, on a le privilège d'avoir Louis Bourque avec nous. Je connais M. Bourque depuis un bon moment. J'ai grandi avec certains de ses enfants. Donc Louis est juste ici à côté de moi, hein, déjà. Alors, papa de 5 enfants, dont quelques-uns ont mon âge à peu près. Il est marié avec Mme Denise depuis plus de 35 ans déjà. Alors, j'ai fait des recherches. Ils sont grands-parents de 9 petits-enfants. C'est bien ça, hein? Je pense qu'il y en a un 10e en route. Voilà. Ah, c'est ça. Donc, Louis Bourque, pour moi, c'est un homme de cœur qui aime le Seigneur, un bon pasteur, un bon berger, qui aime l'Église, qui aime l'Évangile. Et puis, il aime beaucoup la parole de Dieu. Il a commencé à étudier en 2013. En fait, c'était des retours aux études. Il a fait un doctorat en ministère Il va être terminé dans les prochains mois. Là, hein? Je pense que la présentation de la thèse s'en vient.
Dans deux semaines.
Donc, hein, on va prier pour toi. Également, M. Bourque, on a appris ce vendredi même qu'il a été retenu pour être le candidat à la direction générale de notre association d'église. Donc, on est très heureux que tu sois avec nous ce matin. Et une première fois pour un dimanche matin d'église à Longueuil.
Oui.
Que Dieu te bénisse.
Hey, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très honoré d'être avec vous ce matin, première sortie officielle. Je ne sais pas trop comment je vais vivre ça, cette idée-là d'être un directeur général. J'ai accepté ce rôle, cette position-là, avec beaucoup d'humilité. J'aime plaire à dire que j'étais le seul candidat qui a accepté de considérer la tâche. Tous les autres ont décliné, alors... J'ai prié longuement aussi pour ça et de croire que pour un certain temps, j'espère jouer un rôle qui va vraiment faire une différence dans notre association, dans notre famille d'Église. J'ai accepté ce rôle-là aussi par la foi parce que on fait partie de plus en plus de des temps difficiles. C'est pas une petite affaire de présenter l'Évangile aujourd'hui. Les gens sont de plus en plus indifférents, rebelles à Dieu. Ouvert à toutes sortes de choses, mais certainement pas au christianisme et à Jésus-Christ, le sauveur de ce monde. Alors, c'est vraiment par la foi, on va le faire et il va falloir ensemble vraiment crier à Dieu, prier pour que Dieu ouvre des portes et qu'il permette que malgré les temps difficiles, il y ait toujours des rendez-vous divins pour partager l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, je vous invite à prier pour moi afin que Dieu me donne la sagesse et l'intelligence pour influencer dans la bonne direction notre famille d'Église. Ce matin, on m'a invité à parler sur un long passage de l'Évangile de Luc. J'étais un petit peu frustré parce que le pasteur, la semaine passée, avait quelques versets. Moi, j'ai 2 chapitres et... Imaginez, moi on m'appelle à l'Église le prédicateur, pas par exposition, mais d'introduction, parce que mes introductions sont tellement longues que parfois c'est une bonne partie du message. Et là, de parler de 2 chapitres en quelques minutes, c'est tout un défi. Donc, j'ai accepté avec joie, malgré tout, pour continuer à être avec vous dans cette série au travers l'Évangile de Luc. Et la semaine passée, Yannick a enseigné sur l'entrée triomphale, l'entrée royale de Jésus à Jérusalem. Et là, on rentre dans une partie tellement importante de l'Évangile. Parce que là, on arrive à la fin du ministère de Jésus. Ça fait 3 ans que Jésus est en train de servir, qu'il est en train d'enseigner, qu'il est en train de préparer le moment ultime de l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Imaginez Jésus dans quelques jours va aller mourir sur la croix pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Toute l'histoire de l'humanité se dirigeait vers cet événement-là et encore une fois, toute l'histoire de l'humanité s'éloigne de cet événement-là parce que cet événement-là est central. On est dans la dernière semaine de vie de Jésus. On pense que l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem sur le dos d'un ânon s'est produite le dimanche. Et nous, les 8 histoires qu'on va voir ensemble ce matin vont se dérouler du lundi au vendredi. Et c'est le vendredi qu'il va être crucifié et ressuscité le dimanche. dans cette entrée triomphale, royale de Jésus, on assiste à un couronnement, le plus grand couronnement, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sur un petit ânon qui entre à Jérusalem. Yannick a tellement bien présenté ça ici. Quel contraste avec le royaume de ce monde. Cette entrée royale-là est à l'image de son incarnation lorsqu'il est né dans une petite crèche. Mais pourtant, il accomplit les Écritures, il monte sur un ânon, il démontre qu'il est le roi qui rentre à Jérusalem, et que ce roi-là doit être crucifié, considéré comme un criminel pour que les hommes soient sauvés. Et à partir de cet événement-là, le lundi matin, on va lire ensemble 8 histoires qui vont séparer l'entrée royale de Jésus avec sa crucifixion. 8 histoires qui vont mettre en évidence la royauté, mais surtout l'autorité du roi. L'autorité du roi sur toute chose, sur toute circonstance, sur toute situation, et particulièrement son autorité sur notre propre vie. On va avoir l'occasion de réfléchir à savoir de quelle façon, quelles sont les dimensions dans nos vies. Jésus n'est pas roi, seigneur, souverain. Et pour nous préparer à cette étude, j'aimerais inviter Luc qui va nous faire la lecture de 2 courts passages de ce long passage.
Donc, le passage public pour ce matin, on tirait du livre de Luc.
Le micro est pas ouvert, je crois.
Fonctionne pas le micro.
Ah, là, il marche.
Fonctionne. Oui, ça va? OK, merci.
Non.
Non?
L'as-tu fermé?
Correct. OK, merci. Donc, au chapitre 19, versets 45 à 48, puis après ça, au chapitre 20, versets 1 à 8, l'édition second 21. Donc, je répète, confusion ce matin. Donc, Luc, au chapitre 19, versets 45 à 48, et par la suite, chapitre 20, versets 1 à 8. Donc, Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait suspendu à ses lèvres. » Donc, chapitre 20, versets 1 à 8. Un de ces jours-là, Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle. Les prêtres et les spécialistes de la loi, avec les anciens, survinrent alors et lui dirent, « Dites-nous, par quelle autorité tu fais ces choses? Ou qui t'a donné cette autorité? » Il leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? » Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Jésus leur dit, « Moi non plus, je vous dirai pas de quelle ou par quelle autorité je fais ces choses. »
Merci Luc. Luc, c'est un bon ami, alors c'est un privilège hein, que Dieu a dirigé comme ça, qu'on soit ensemble, servir ensemble ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un arrière-plan un petit peu particulier. Lorsque j'étais jeune, j'étais un homme très idéaliste et je voulais changer le monde. J'ai été impliqué dans la politique, même à l'époque qu'on avait une 7e année, j'étais rentré dans la cour d'école avec une affiche « Le Québec aux Québécois ». Et mon idée était qu'il fallait changer le monde pour en faire un monde meilleur. Mais c'est seulement un peu plus tard que j'ai réalisé que j'étais un homme tellement rebelle, un homme qui contestait tout ce qu'il pouvait contester. Un de mes grands héros était Che Guevara. Che Guevara qui était vraiment un révolutionnaire avec Fidel Castro. Ils ont fait la révolution à Cuba. Et après, ils ont fait la révolution, la prochaine slide, on va voir, c'est Che Guevara, qui, après avoir fait la révolution avec Fidel Castro à Cuba, est parti en Bolivie espérant faire la même chose. Mais son rêve s'est éteint le 9 octobre 1967, où finalement l'armée bolivienne l'ont atteint et l'ont supprimé. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Je m'imaginais cette idée-là un jour, là, de devenir un révolutionnaire puis de mourir comme ça. Je suis un révolutionnaire. Ah! Mais lorsqu'on a commencé à me partager l'Évangile, j'ai compris vraiment quelque chose de différent. J'ai compris que c'était pas les systèmes sociaux, les systèmes politiques, c'était pas l'environnement qui rendait les hommes libres ou heureux, mais que c'était quelque chose qui se passait au niveau du cœur. Et que lorsque le cœur est libre, lorsque le cœur est réconcilié avec Dieu, eh bien là, ça transforme toute notre vie, que l'on soit libre ou en prison, que l'on soit esclave ou libre. Et c'est pour ça que lorsque je suis devenu croyant et lorsque j'ai accepté le plan de Dieu et que Dieu a bien voulu m'utiliser comme un berger pour prendre soin des gens, j'ai réalisé que j'avais bien plus d'impact que tous les politiciens du monde. Parce que je travaillais au niveau du cœur, parce que le monde change un cœur à la fois, puis il commence par le mien. Et que là, tout d'un coup, là, je partage l'Évangile et d'avoir une vie transformée, il y a-tu quelque chose de plus extraordinaire, de plus merveilleux que ça? Ma vie a vraiment été bouleversée par Dieu. Et c'est pour ça que ma vie ne m'appartient plus et que j'ai soumis ma vie à l'autorité de Dieu. Les Juifs attendaient un leader politique. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Je pense que Yannick en a parlé la semaine passée. Ils espéraient tellement être libérés de l'oppression romaine. Et ils étaient convaincus que le Messie, c'est ce qu'il était pour faire. Lorsque Jésus rentrait à Jérusalem sur ce dos de cet anon et qu'il célébrait à Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ils étaient convaincus qu'il s'en venait à Jérusalem pour mettre les Romains dehors. Pourtant, Jésus, encore une fois, comme il l'a fait dans ma propre vie, cette révolution-là, il l'a fait aussi, mais d'une manière différente. Il l'a fait au niveau du cœur. Et c'est pas surprenant que quelques jours plus tard, ils l'ont crucifié. Et c'est pour ça que la gloire des hommes, ça veut pas dire grand-chose. C'est vrai, comme j'ai reçu des courriels qui disaient « Lou, on est tellement content que tu es devenu notre directeur général. » C'est gentil. Mais il ne faudrait pas être surpris que dans 2 ans, on dit « Crucifie-le! Enlève-le de là! On n'aime pas ce qu'il fait! » Et Jésus, c'est pour ça que je ne suis pas un sauveur. Mais Jésus, lui, était le sauveur pourtant. Mais ce genre de sauveur-là, on n'en voulait pas. Beaucoup de gens reçoivent le royaume comme ça. Ils reçoivent le royaume avec intérêt, c'est-à-dire qu'ils espèrent que, en acceptant Jésus, et parfois on présente tellement mal l'Évangile pour ça, « Viens Jésus, il va sauver ton mariage! » Avez-vous déjà entendu ça? 5 ans après, c'est pas tout à fait ce qui s'est produit. Divorce. C'est pire! Et là, on, dans le fond, on veut un sauveur pour nous. On veut un sauveur pour nos intérêts. Alors que l'Évangile, ça se passe un petit peu autrement. L'Évangile, c'est quelque chose d'abord qui débute par quelque chose qu'on donne. Dans l'Évangile, c'est écrit, Jésus, dans l'Évangile de Marc, Jésus allait dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Wow! L'Évangile, ça commence par la repentance. La repentance n'est jamais détachée de la foi. À vrai dire, elle est attachée à la foi et ça commence comme ça. On a un regret à l'égard de Dieu. La repentance, c'est un changement d'avis. La Bible nous dit que la vraie repentance, c'est un changement d'avis à l'égard, premièrement, de Dieu. Dieu était notre ennemi. Dieu était indifférent en nous. Et lorsqu'on se repent, on reconnaît sa royauté, on reconnaît son autorité sur nos vies. C'est ça la repentance. Et la repentance, vous avez certainement entendu ça, c'est que c'est un 180. On allait dans une direction et maintenant on s'en va dans une autre direction. J'étais un homme rebelle, je contestais les autorités, je voulais faire ma vie de cette façon-là. Et lorsque Jésus-Christ est devenu mon sauveur et mon Seigneur, ma vie a changé de direction et là je vais dans une autre direction. Je me soumets à sa royauté, à sa divinité. Il devient mon Seigneur, c'est ça que ça veut dire. Jésus Seigneur ou Seigneur Jésus. Tu as le droit de faire ce que tu veux de ma vie. Mon premier choix, c'était pas directeur général de l'association. J'ai 59 ans, je suis fatigué. Je me suis donné pleinement dans mon ministère. Jusqu'à mourir des fois. Et j'ai fait ces études-là et je pensais jamais que ça serait dur comme ça. Je suis fatigué. Il me semble que je me verrais dans une chaloupe, en train de pêcher à la mouche, ma passion préférée. Mais Dieu avait quelque chose de différent pour moi. C'était pas ça qu'il voulait. C'est pas la retraite. C'est servir d'une autre façon. Puis elle doit décider ce qu'il veut de ma vie. OK. Je vais faire un autre bout. Les apôtres ont présenté dans Actes chapitre 26, l'apôtre Paul, il écrit au sujet de la conversion, « J'ai annoncé qu'il devait se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. » Autrement dit, on est capable de voir dans ta vie cette repentance. On est capable de voir dans ta vie ce changement de direction avec Dieu. Ça a commencé de l'intérieur vers l'extérieur. Ça a changé le cœur et ça a changé la vie. Donc, dans ce long passage de l'Évangile de Luc, on voit 8 histoires qui démontrent encore une fois la divinité, la royauté de Jésus, mais aussi son autorité sur toutes choses. Et comme je l'ai souligné tantôt, on peut voir dans chacune de ces histoires-là, puis s'interroger, puis se questionner, de dire, « Hey Seigneur, est-ce que moi, tu as autorité sur ce domaine dans ma vie? Est-ce que ça l'a changé? » C'est vrai que les changements parfaits, ils vont se produire seulement lorsqu'on va être au ciel, lorsque Jésus va venir nous chercher, peu importe quand est-ce qu'il va venir nous chercher, là. Quand il va venir nous chercher, alors il va nous transformer et puis là, on va être parfait. Alors là, parfaitement, Jésus va devenir Seigneur de n'importe quel raccoin dans nos vies. Mais en attendant, on doit faire le ménage. On doit se questionner, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où Jésus n'est pas Seigneur, n'est pas roi? Donc, regardons premièrement cette première histoire dans laquelle Jésus purifie le temple. Dans cette histoire de Luc 19, histoire qu'on connaît bien, hein, on a tous vu ces images-là lorsque Jésus, dans les films sur Jésus, où Jésus rentre dans le temple avec un fouet, avec une vigueur extraordinaire, rentre, et dans les autres évangiles, on voit qu'il prend les tables, il jette ça à terre, l'argent roule, les animaux, peut-être les pigeons volent dans les airs, je ne sais pas, personne n'est capable de l'arrêter, sa colère est extraordinaire. Ils étaient impressionnés. Personne n'avait un mot à dire. Jésus purifie le temple. Jésus purifie sa maison. Le symbole de sa relation avec Dieu, avec l'homme. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle, le temple était le symbole, l'endroit où ça représentait, où l'homme devait aller en communion avec Dieu. L'homme devait rencontrer Dieu. On a tellement de ces images-là qui sont bien exprimées dans l'Exode, avec Moïse dans le tabernacle. Et finalement, le tabernacle est passé d'un tabernacle amovible à un tabernacle fixe. Et là, dans ce tabernacle fixe, c'était le symbole de l'adoration. Et Jésus est en train d'expliquer ici que dans cette relation-là avec Dieu, on doit rechercher la sainteté, on doit rechercher plus à adorer Dieu avec un cœur pur, certainement pas faire une caverne de voleurs. Et c'est exactement ce qu'ils avaient fait. Et comme j'expliquais tantôt, cet événement-là précède la Pâque. Et à Pâque, c'était une invitation où tous les Juifs croyants devaient aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Et on pense qu'à ce moment-là, la ville de Jérusalem était envahie par tout près de 2 millions de personnes. Et c'est pour ça, lorsque Jésus est rentré sur le dos d'un ânon et qu'il y avait tellement de foule ou de gens qui l'acclamaient, parce que c'était un moment de frénésie, un moment spirituel très high. C'était important d'être à Jérusalem. Donc, il y avait des Juifs croyants qui venaient de partout, de différentes parties du monde, qui allaient à Jérusalem parce que c'était l'endroit. La loi commandait de célébrer la Pâque à Jérusalem. Mais ils arrivaient parce qu'ils venaient de loin. Ils n'avaient pas amené leurs animaux pour leur sacrifice. Puis ils venaient avec de l'argent étranger. Et c'est pour ça que dans le temple, on avait des gens qui vendaient les animaux et des gens qui changeaient l'argent. Maintenant, le focus était déplacé entre cette idée-là d'adorer, de venir à Jérusalem pour adorer Dieu, pour finalement devenir un grand marchand, un grand chantier où on faisait des affaires. Ils avaient déplacé la priorité de ce que Dieu s'attendait de son peuple à ce moment-là. Et c'est pour ça que Jésus, il explique qu'est-ce qu'il fait. Il explique pourquoi il est motivé dans sa colère. Il va citer Ésaïe 56, il va dire « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » C'est un endroit pour adorer Dieu. C'était pas un endroit pour faire de la business, c'était pas un endroit pour faire des affaires, et c'était surtout pas un endroit pour abuser des gens. Parce que c'est ça qui arrivait. Les leaders du temple, les leaders religieux de l'époque utilisaient cette situation-là pour faire des bonnes affaires. Alors, lorsque Jésus purifie le temple, il y a deux sortes de réactions. Il y a premièrement les leaders religieux qui sont responsables du temple et puis qui sont humiliés par l'action de Jésus. Ils savent bien trop que Jésus a raison, mais ils détestent Jésus. Ils sont ses adversaires. Et c'est pour ça qu'on va voir que dans les histoires qui vont suivre, ça va être une série de conflits entre Jésus et les leaders religieux de l'époque. Ils veulent disqualifier Jésus, ils veulent faire mourir Jésus parce qu'ils sont humiliés. Jésus a ben trop de succès en comparaison avec eux. Mais il y a d'autres gens qui sont témoins de la même scène puis qui sont touchés. Il regarde ça, puis il dit, il voit l'action de Jésus avec admiration. Le texte dans Luc nous dit, « Tout le peuple l'écoutait suspendu à ses lèvres. » Ils aimaient ça. Ils sentaient que ça répondait vraiment quelque chose à leur cœur, à leur âme. Maintenant, avec quel groupe vous vous identifiez? Est-ce que vous vous identifiez avec les leaders religieux? Est-ce que vous êtes une personne religieuse? Est-ce que vous êtes préoccupé par votre adoration? Êtes-vous préoccupé par votre communion? Si, à l'époque, avant la crucifixion, l'endroit où on rencontrait Dieu était dans le temple, dans la nouvelle alliance, dans cette nouvelle relation avec Dieu, dans cette relation personnelle, la communion se fait en nous-mêmes, se fait dans notre corps. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire qu'on est le temple de Dieu. Est-ce que vous êtes préoccupé par la sainteté, par l'adoration, par la pureté de vos temples? Est-ce que vous mélangez votre temple avec toutes sortes de choses? Ou si des fois vous le faites, êtes-vous indifférent ou préoccupé quand votre cœur est attiré par autre chose? Il y a eu une belle conférence qui s'est faite dernièrement ici, des idoles du cœur. Est-ce qu'il y a des idoles dans votre cœur? Est-ce que votre vie chrétienne est mélangée avec quelque chose d'autre? La deuxième histoire parle de l'autorité de Jésus. Cette histoire nous dit dans Luc chapitre 20, versets 1 à 8, et finalement, après que Jésus a fait ce ménage dans le temple, là, les leaders religieux se demandent et disent, « Wow, qui t'a donné le droit de faire ce que tu as fait? Personne t'a autorisé de faire cela. » Et là, Jésus parle de son autorité comme quoi il avait pleinement l'autorité. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce temple est son temple. Il avait le droit de faire ce ménage. Mais eux, ils étaient habitués de contrôler ceux qui avaient l'autorité et ceux qui ne l'avaient pas. Il y avait tout un système de principes de sélection pour former, choisir les leaders religieux à l'époque. Jésus avait fait aucun de ces de ces étapes pour être qualifié leader spirituel. Alors, Jésus, pour expliquer qu'il avait l'autorité, il va utiliser une méthode hébraïque, une manière où on avait l'habitude de se poser question sur question. Alors, il lui pose une question, alors Jésus répond avec une autre question. Est-ce que Jean le Baptiste, son ministère venait de Dieu ou des hommes? Il ramène ça exactement au bon endroit parce qu'il est encore une fois en train de parler de l'autorité. Est-ce que Jean le Baptiste avait l'autorité de faire ce qu'il faisait? Était-il vraiment un prophète? Et là, les leaders religieux réfléchissent à eux-mêmes. On dit, question piège. Alors, si on dit oui, alors ils disent pourquoi on ne l'a pas écouté? Et s'ils disent non, ils savaient que les leaders religieux, la foule admirait et considérait Jean le Baptiste comme un prophète. Alors, il dit, au lieu de dire oui ou non, ils disent, on ne sait pas. On a eu ça beaucoup dans la commission Charbonneau. Je m'en rappelle pas. C'est une façon d'esquiver la question. Alors, Jésus... habile, et c'est ça qui est tellement merveilleux de passer rapidement à travers ces histoires-là. On voit comment est-ce qu'il maîtrise l'art de la question. Il dit, bien, moi non plus. Je ne vous dirai pas de quelle autorité je fais ces choses. Laissant vraiment sous-entendre que Jean le Baptiste, son ministère venait de Dieu, et laissant sous-entendre que son ministère vient vraiment de Dieu et est approuvé par Dieu. Et ça met encore une fois en évidence son droit, son autorité. Et là, comme le temple est le symbole de nos vies, sont le symbole de la présence de Dieu, ça nous interpelle encore une fois. Est-ce qu'on reconnaît l'autorité de Jésus sur notre vie? Est-ce qu'on essaie de se défiler? Est-ce qu'on voit notre soumission à la divinité de Jésus, à la Jésus roi, Dieu, comme facultative. Et ça encore, c'est une question qui peut être tellement troublante parce que dans mon expérience, c'est qu'on est bon pour se défiler ou de trouver toutes sortes de moyens, comme les leaders religieux, pour justifier des choses dans nos vies. Des mariages qu'on ne devrait pas avoir, des fréquentations qu'on ne devrait pas avoir, des jobs qu'on ne devrait pas faire, des aspects de nos jobs qu'on ne devrait pas faire. C'est exigeant, ça, de dire que Jésus est Seigneur. Je lisais l'histoire d'un grand prédicateur aux États-Unis quand il était jeune, puis il travaillait dans une entreprise, puis là, tout le monde punchait. Mais il punchait pour les autres, même s'ils n'étaient pas là. Et là, lui, il se demandait, il dit, pourquoi vous faites ça? C'est pas légal. Ah, il dit, tout le monde fait ça ici. Et là, il dit, « Ben moi, je ne fais pas ça. Parce que je suis un chrétien. » Son autorité suprême, l'autorité de Dieu, lui dictait sa conscience de ce qui était bien, de ce qui était mal. Troisième histoire. Et là, c'est Jésus qui la provoque, dans laquelle il va parler d'une parabole, la parabole du royaume. Il va expliquer qu'est-ce que les leaders juifs et particulièrement aussi Israël ont fait du royaume, son royaume. Dieu avait choisi Israël pour bénir Israël afin qu'Israël devienne une bénédiction pour les nations. Israël n'a pas compris ça. Ce que Israël a fait, c'est qu'il a pris la bénédiction puis il l'a gardé pour eux. Ils se sont pas soumis à Dieu, ils se sont pas soumis au plan de Dieu. Ils ont pris la bénédiction puis ils l'ont gardé pour eux. Et pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils ont fait, il va raconter une parabole, une histoire qu'ils sont capables de comprendre. Peut-être qu'on comprend moins nous aujourd'hui parce qu'il va parler d'un maître qui bâtit une vigne, puis qui fait prospérer une vigne, puis qui finalement loue sa vigne à des personnes qui vont prendre soin de sa vigne et puis qui va demander des comptes. Et l'histoire nous raconte ici que les vignerons, au lieu de rendre compte au propriétaire de la vigne, vont regardez tous ceux que le roi ou le propriétaire de la vigne envoie pour avoir des comptes, ils vont les battre, les rejeter, les ridiculiser. Mais finalement, le propriétaire de la vigne, il dit, bien, je vais envoyer mon fils, parce qu'en envoyant mon fils, au moins, ils vont respecter mon fils. Mais lorsqu'ils ont vu que le fils venait pour demander des comptes avec la vigne, ils ont dit, hey, quelle occasion extraordinaire, l'héritier, on va tuer l'héritier, comme ça, on va devenir les propriétaires de la vigne. Les leaders religieux ont bien compris que c'était de eux qu'ils parlaient. Et même dans le texte, Jésus pose la question à la fin de sa parabole, il dit, « Qu'est-ce que le propriétaire va faire? » Ah, ben là, on comprenait très bien, hein? Ben il va juger sévèrement ces mauvais ouvriers. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de faire. Il dit, « Le royaume, c'est à moi, c'est mon royaume, et vous avez volé mon royaume. » Vous avez volé ma gloire, vous avez volé mes privilèges, vous les avez gardés pour vous, vous avez été égoïste. Et un jour, le jugement va tomber sur vous. C'est toute l'histoire des prophètes, que Dieu envoie les prophètes qui avertissent Israël, qui disent « Repentez-vous, ayez des meilleurs sentiments à l'égard de Dieu, soumettez-vous à Dieu ». Dieu envoie un prophète, un autre prophète, un autre prophète. Finalement, Dieu envoie Jean le Baptiste. Et finalement, Dieu envoie le Fils qu'ils ont tué. L'accomplissement de la parabole. Et Jésus explique que ces leaders religieux qui ne sont toujours pas soumis à Dieu aujourd'hui, le peuple d'Israël qui n'est pas encore capable de reconnaître la pierre angulaire du royaume, un jour, ils vont être jugés plus sévèrement. Et parfois, l'Église peut avoir la même tendance. Lorsque l'Église, on n'a pas le temps de voir ça ce matin, mais je pourrais vous parler des cycles de croissance ou des cycles de vie de l'Église. Ce qui se produit presque inévitablement dans toutes les églises, c'est que l'Église débute missionnelle, c'est-à-dire tournée vers le monde afin d'être une bénédiction pour le monde, puis inévitablement, ce qu'elle fait, elle se tourne vers elle-même. Elle devient très égocentrique. C'est comme si là, l'Église doit servir nos intérêts. Alors que Dieu bénit l'Église pour que l'Église soit une bénédiction pour les nations, afin que l'Église puisse partager, parler des bontés, des bénédictions de Dieu aux hommes. Au lieu de se tourner vers les hommes, ah ben non, les hommes, on est un peu comme ces leaders religieux-là, on n'est pas pour aller le monde est tellement sale, il est tellement laid. On se détache du monde. Les statistiques démontrent qu'après 7 ans de vie chrétienne, vous n'avez à peu près presque plus de contact avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tout votre monde tourne autour de croyants de votre vie chrétienne. Et même parfois, comme je le disais tantôt, on prend le royaume pour servir nos propres intérêts. Est-ce que vous êtes capable de vous identifier avec ces leaders religieux? Est-ce que l'Église de Longueuil, l'Église de l'espoir, est encore tournée vers les nations? Est-ce qu'elle est encore préoccupée par ce monde qui périt autour de nous ou elle recherche encore être plus confortable, plus à l'aise, plus mieux servie pour elle-même? Si l'Église appartient à Jésus et elle appartient à Jésus, on doit rechercher les intérêts de Jésus et obéir à la direction de Jésus. Quatrièmement, quatrième événement, nous parle de notre soumission aux autorités. Notre façon dont on se soumet aux autorités est révélateur de notre spiritualité. Alors, ce qui est arrivé, dans les passages précédents, Jésus a finalement gagné les discussions, les échanges. Un autre groupe approche Jésus. Là, ce coup-là, c'est les Hérodiens, ceux qui sont attachés à Hérode. Et tous ceux qui étaient attachés à Hérode détestaient Jésus. Et même le roi Hérode craignait Jésus parce qu'il pensait que Jésus était Jean-Baptiste qui était ressuscité. Et là, ils approchent Jésus en essayant de le piéger. Mais Jésus est un maître. Qui peut vraiment résister à Jésus? Alors, convaincus qu'ils vont piéger Jésus, ils prennent une pièce, ils disent, est-ce que c'est permis de payer les impôts aux Romains? Ah, payer les impôts aux Romains, attends une minute là. Les Romains qui nous ont envahis, qui nous contrôlent, dans lesquels on voudrait être libérés par le Messie? Ils sont convaincus que si Jésus dit, oui, il faut payer les impôts aux Romains, ah, yeah, Jésus, il va perdre sa crédibilité vis-à-vis le peuple. Il s'est dit, non, faut pas payer les impôts. Ah, yeah! On le dit à César, puis là, on l'arrête, puis il est emprisonné, puis on le fait mourir. Jésus prend la pièce de monnaie, puis il dit, quelle est l'effigie dessus? L'inscription. César, donne à César ce qui revient à César. Ça, c'est troublant. C'est troublant parce que Jésus est en train de dire ici, paye tes impôts. Attends une minute, c'est pas un problème juste pour l'époque de Jésus, on est d'accord, hein? Est-ce qu'il y a du monde ici qui chante Alléluia quand ils payent leurs impôts? Non. Okay. Puis surtout que les Juifs payaient apparemment très élevés leurs impôts comparativement aux autres peuples. Mais dans le fond, ce qui les dérangeait le plus, c'était pas de payer les impôts. Ce qui les dérangeait le plus, c'était qu'ils devaient se soumettre aux Romains. C'est pour ça qu'ils espéraient que le Messie les libère politiquement. Et là, Jésus est en train de dire ici, il faut payer tes impôts. Il faut que tu te soumettes aux Romains. Il faut que tu te soumettes à ceux qui vont me faire mourir. C'est fort. Il va être lui-même tué par les Romains. Puis il dit, soumets-toi aux Romains. Quand je disais tantôt, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai écrit. Les principes de Jésus sont révolutionnaires, mais d'une manière différente de ce qu'on est habitué d'entendre. Je les appelle souvent des principes à l'envers. Et là, Jésus n'arrête pas cela. Il dit, donne à César ce qui est à César, mais donne à Dieu ce qui est à Dieu. Il est en train de connecter ensemble notre spiritualité de notre soumission aux autorités. Autrement dit, notre soumission aux autorités, peu importe les autorités, on n'a pas le temps pour aller voir Romains chapitre 13, où l'apôtre Paul dit qu'on doit être soumis aux autorités et que toute autorité vient de Dieu. Notre soumission aux autorités est révélateur de notre spiritualité. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu dans ma vie, est devenu mon Seigneur, moi, là, je m'en fous des partis politiques. Je vais me soumettre aux autorités, même si des fois, ça va pas jouer en ma faveur. Moi, je veux servir Dieu. Puis, peu importe le contexte dans lequel il va m'inviter, je vais le faire. Je crois pas qu'on doit... Je ne dis pas qu'on ne doit pas parler, mais je ne crois pas qu'on va changer. Les croyants vont changer les systèmes politiques. Et là, c'est tellement une bonne question pour notre propre vie. Comment est ta soumission envers ton patron, envers tes professeurs, envers tes parents, envers ton église? Des fois, la réponse est troublante. Cinquièmement, il parle de l'espérance des croyants. Et là, ce sont les Sadducéens, les plus aristocrates des partis politiques, des partis religieux, ceux qui étaient moins aimés, étaient les plus influents. Les Sadducéens, ce sont ceux qui contrôlaient le temple. Ce sont eux qui administraient les vendeurs du temple. Et ils approchent Jésus avec une grande question théologique. Ils n'étaient pas aimés par les autres, les pharisiens, parce que les pharisiens, eux, croyaient à la résurrection, tandis que les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Alors, ils sont convaincus qu'ils vont prendre encore une fois Jésus au piège. Ils vont citer Ils vont citer Moïse, ils vont citer Deutéronome, chapitre 25, dans lequel c'est écrit que quand un homme perd, quand un homme décède, le frère doit prendre la femme pour continuer la lignée. Et il démontre ça, il pousse ça au ridicule. À 7 reprises, cette femme-là va avoir été mariée avec les frères. Et finalement, il pose la question avec qui elle va être le frère. Wow! Jésus explique que vous ne comprenez rien. Il est sarcastique. N'avez-vous pas lu? Il explique que Dieu est le Dieu des vivants. Il explique que il est plus grand que les patriarches et qu'après la mort, on va être comme des anges. Certains couples chrétiens disent, oh, on va être comme des anges, on va être séparés, chérie. D'autres couples disent, yeah! On va être comme des anges. Filling des clapes. Non, non, moi, je pense que les anges vont faire plein de choses, là, surtout sur la nouvelle terre. Là, on va en faire des affaires. Et j'ai même pensé, lu un passage qui dit qu'on va pêcher. Sixièmement, et là, Jésus les invite à réfléchir sur le psaume 110, dans lequel il parle que David lui-même a parlé de lui, qui a parlé de la divinité du Messie, a parlé comment est-ce qu'il était le roi, comment est-ce qu'il était de la descendance de David, mais que finalement, il était Dieu. Et encore une fois, il présente sa divinité, son autorité sur toute chose. Septièmement, il parle de l'autorité. Il parle de l'autorité sur la gestion de notre vie. Et pour le faire, il va être assis dans le temple, il va être devant les trônes. Les trônes, à cette époque-là, on passait pas l'offrande. C'était des boîtes qui étaient mises à la porte du temple et les gens déposaient l'argent. Et c'est pour ça que certaines églises, quand vous allez les visiter, ils passent pas l'offrande, mais ils ont des boîtes comme ça où les gens déposent l'argent dedans. Et Jésus est avec ses disciples, puis il regarde les gens déposer l'argent. Et il y a une vieille dame, une pauvre dame, une veuve, qui vient déposer 2 petites pièces de monnaie dans le tronc. Et Jésus va utiliser ça pour parler comment est-ce que ça est révélateur de nos priorités, révélateur de ce qui était vraiment important pour nous. Premièrement, parce que Dieu enseigne sur les finances, Dieu enseigne sur l'argent. Vous seriez peut-être curieux de savoir que le deuxième sujet qui est le plus parlé de la Bible, c'est l'argent. C'est le sujet qu'on aime le moins parler dans les églises québécoises. Je pense qu'on est plus capable de parler des combats des hommes avec la pornographie que de parler de l'argent dans l'église. Parler des finances, parler des offrandes. Je me faisais le devoir d'enseigner une fois par année là-dessus, mais ça y est, le combat que j'avais à chaque fois. J'haïssais ça, parce que les chrétiens n'aiment pas ça entendre parler de ça. Mais pourtant, Jésus nous dit ici que c'est révélateur. C'est révélateur parce que, premièrement, dans le texte ici, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tous les croyants, sans exception, peu importe tes moyens, tu es invité à donner. Elle avait toutes les raisons du monde de ne pas donner. Mais elle a décidé de donner. Elle comprenait le principe de la reconnaissance. Elle donnait régulièrement parce que c'est ça que Dieu demandait. Deuxièmement, elle donnait selon sa prospérité. Elle n'était pas riche, elle était pauvre. Mais elle a donné selon ses moyens. Donc, on ne parle plus de 10% ici, là. On ne parle pas de 20% ici. On n'a pas le temps, mais je pourrais vous en parler longtemps. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut donner selon nos moyens. Et même si ce n'est pas beaucoup, parce que tu n'as vraiment pas beaucoup, le Dieu est glorifié, Dieu chante Alléluia, mais si tu as été beaucoup béni par Dieu, alors tu dois être beaucoup en train de bénir. Et c'est pour ça qu'on voit dans le texte ici qu'elle l'a donné généreusement. De quelle façon elle l'a donné généreusement? Ben, mes amis, elle a donné sa nourriture. Elle a donné ce qu'elle avait besoin. Mais elle, elle s'est pas dit, ah ben Dieu va comprendre ici que j'en ai besoin. Non, c'était plus fort qu'elle, c'était plus important qu'elle. Je veux démontrer ma reconnaissance à Dieu. Je veux démontrer ma soumission à Dieu, à l'autorité de Dieu sur ma vie. Je vais donner même ce que j'ai de besoin. C'est toute une histoire, ça. Ça veut dire que là, on se pose la question, comment est-ce que qu'est-ce que je fais de ma vie? Ça fait référence à l'autorité de Dieu sur ma vie. Ça fait référence à l'autorité de Dieu sur l'emploi de mon temps. Qu'est-ce que je fais avec mon temps? Je prends mon agenda, comment est-ce que mon agenda reflète ma soumission à Dieu? Comment est-ce que mon carnet de chèques qu'on n'utilise plus, alors on va utiliser la carte accédée, comment est-ce que mon relevé accédé révèle ma soumission à Dieu, à son autorité sur ma vie? Mon père a pris sa retraite à 59 ans. Peut-être c'est légitime que je prenne ma retraite à 59 ans. Et je ne suis pas en train de juger ceux qui ont pris leur retraite à 55 ans un petit peu. Non, pas du tout. Si à 55 ans, le système t'a permis d'avoir une bonne retraite puis de prendre ta retraite à 55 ans, alléluia! Mais maintenant, ce que ça veut dire, c'est que tu as plus de temps pour servir Dieu. C'est pas plus de temps pour aller plus à la pêche. C'est fort, ça. L'autorité de Dieu sur ma vie. Vous savez quoi? Le texte termine avec le retour de Jésus. Je trouve ça tellement intéressant. On a l'entrée de Jésus sur un anneau, puis à la fin, on a le retour de Jésus qui revient comme roi des rois, seigneur des seigneurs, soumission, autorité absolue sur l'histoire, jugement dernier. Jésus dit, craignez pas ceux qui peuvent détruire le corps. Craignez ceux qui peuvent envoyer l'âme dans la géhenne. Peut-être que ce matin, Jésus n'est pas Seigneur de ta vie. Peut-être que tu résistes à Dieu et tu dis, ah, je vais encore diriger ma vie, je veux faire comme ça me plaît, je veux encore un bout. Mais on ne sait pas, peut-être Jésus va venir ce soir. Peut-être que tu vas mourir ce soir. Et si Jésus n'est pas Seigneur de ta vie maintenant, tu vas rencontrer Jésus comme un juge. Et il va avoir pleinement autorité pour te condamner pour l'éternité. Moi, j'aime les Québécois. Si j'avais à écrire un livre aujourd'hui, l'intitulerais je t'appellerai. Vive le Québec libre. Libéré dans son cœur. Libéré de l'esclavage du péché. Réconcilié avec Dieu pour l'éternité. C'est ma mission. Jusqu'à mon dernier souffle. Prions. Seigneur Jésus, tu es vraiment un maître. Et c'est pour ça que j'aime lire la Bible. C'est pour ça que j'aime t'entendre le matin. Je veux entendre ta parole, Jésus, mon roi. Je veux que tu corriges mes pensées. Je veux que tu corriges les sentiments de mon cœur, Seigneur. Je veux vibrer au même diapason avec toi. Je te demande pardon. Parce que tellement souvent, Jésus, c'est moi qui se mets sur le trône. Et je regrette. J'ai hâte un jour d'être avec toi afin d'être totalement libéré de moi-même. Mais en attendant, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite dans le ciel et dans ma vie. Et qu'il en soit de même dans la vie de ces personnes qui sont ici ce matin. Je te demande, Seigneur Jésus, deviens Seigneur, roi en toutes choses. Jésus, je t'aime. Sois béni, sois glorifié dans nos vies. Que ce matin, lorsqu'on va chanter ces louanges viennent vraiment du cœur, d'un cœur qui t'adore, d'un cœur qui se soumet à ta Seigneur. Amen.